Le paddock RMC, Jean-Luc Roy.
Et voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce paddock RMC après un Grand Prix phénoménal, un Grand Prix incroyable, un Grand Prix du Canada, évidemment, dès que les conditions météo s'en mêlent. Alors pour débriefer justement ce magnifique Grand Prix, on aura le plaisir d'accueillir Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut mon Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous.
Et puis on aura également Louis Gerbier. Salut Louis.
Salut Jean-Luc, salut Paul, bonjour
salut
tout le monde.
Louis.
Et puis on n'oublie jamais qu'il y a Arthur avec nous et Théo qui nous ont aidés à préparer donc ce paddock F1. Alors beaucoup de choses à dire, hein. On va commencer un sommaire très rapide, donc Grand Prix du Canada sur l'île Notre-Dame. Incroyable, je le disais en ouverture, avec beaucoup de rebondissements. Évidemment, dès que la météo s'en mêle, on le sait bien, en Formule 1. Et au final, comme on dit toujours, bah, c'est souvent Verstappen qui gagne, c'est le meilleur, il ne commet pas d'erreur et il a remporté donc son 60e Grand Prix. Gros espoir du côté de Mercedes, évidemment, avec la deuxième pole de la carrière de Russell, mais on n'a pas réussi à concrétiser en course. Du côté de McLaren, bah on est toujours très performant avec Norris et Piastri en embuscade, et Norris termine encore deuxième, alors on en parlera, évidemment, il était très très déçu. Puis un beau tir groupé d'Aston Martin, même si c'est loin des meilleurs, et Stroll était dans les points chez lui, il faut quand même le signaler. Et puis chez RB, bah Ricciardo redore un peu son blason, il était l'objet de pas mal de critiques, on les évoquera également, mais il prend de bons points, tandis que c'est Tsunoda, lui, qui se prend les pieds dans le tapis. Alors Ferrari, bah c'est la déroute, hein, dominatrice à Monaco, avec la belle victoire de Leclerc chez lui. Mais à Montréal, bah, même du côté de chez Ferrari, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis enfin, allez, une note positive pour, malgré tout pour les deux Alpines qui terminent dans les points. Mais il y a une nouvelle polémique concernant les Team Order. Et puis on vous parlera, si on a le temps, du pré-règlement 2026 qui est déjà critiqué par tout le monde. Alors d'abord, rappel évidemment des résultats. Classement de ce Grand Prix avec une victoire, je l'évoquais, de Max Verstappen avec sa Red Bull. C'est quand même la 60e de sa carrière de pilote de Formule 1, la 6e de la saison 2024. Il devance Lando Norris avec la McLaren, donc une nouvelle fois deuxième de près de 4 secondes. On trouve ensuite George Russell, le poleman, qui lui donc monte sur le podium. Donc quand même 3 écuries différentes sur le podium. Et puis Lewis Hamilton, qui a un moment occupé cette 3e place avant d'être dépassé à nouveau par George Russell, qui termine 4e. Oscar Piastri, qui a fait une belle passe d'armes avec Russell, également termine 5e. Le duo, je l'évoquais, des pilotes Aston avec Alonso devant Stroll, 6 et 7. Daniel Ricciardo qui sort de la tourmente et prend quelques points, bienvenue pour RB. Et puis enfin, les deux Alpines de Gasly et Ocon. Alors, il y a eu tellement de bouleversements. On va commencer avec toi, Paul, qu'on a même du mal, hein, à résumer. Moi, je m'attelle à noter tous les arrêts au stand, tous les changements, évidemment. Mais ça a été un Grand Prix de folie.
Ouais, c'était un Grand Prix de folie. Jean-Luc, tu le précisais déjà, la pole quand même surprise, hein, de George Russell sur sa Mercedes, on le rappelle, à égalité de temps avec le temps de Max Verstappen. Mais comme le Britannique avait réalisé son temps en Q3 avant le Néerlandais, c'est pour cette raison donc qu'il a remporté cette Q3, et donc il s'était lancé en pole position. Alors c'est vrai que tu le rappelais, des conditions vraiment très très difficiles, hein, de la pluie. On a vu les As partir avec des full wet qui sont remontés comme des balles, hein. On a vu Magnus à un moment quatrième de la course. Mais c'est vrai que ce qui fait plaisir et ce qui est aujourd'hui rafraîchissant dans le monde de la Formule 1, et Jean-Luc, on le disait avant de démarrer ce podcast, c'est qu'il y a maintenant de la bagarre. La Red Bull qui dominait la saison dernière avec Max Verstappen, hein, qui avait remporté 19 des 22 Grands Prix, est aujourd'hui à la bagarre. Alors là aussi, tu le rappelais dans ton sommaire, c'est vrai que Max Verstappen a quand même remporté hier sa 6e course en 9 Grands Prix, mais il est aujourd'hui challengé et par Mercedes et par les McLaren qui sont très très bonnes. On avait vu quand même les Ferrari qui avaient gagné un Grand Prix en Australie, qui ont gagné à Monaco. Donc l'intérêt pour la Formule 1 est aujourd'hui, j'ai envie de dire, vraiment à son maximum. On voit des pilotes qui n'ont pas peur de s'engager. On a vu un Lando Norris quand même revenir comme une balle, hein, déposer Max Verstappen, déposer également George Russell, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous avons un plateau qui est qui est là en bagarre, et il n'y a plus qu'un seul pilote, même si évidemment à la fin c'est souvent, j'ai pas envie de dire toujours, mais c'est souvent Max Verstappen qui gagne, Jean-Luc.
Eh ouais, c'est vrai, c'est lui qui commet le moins d'erreurs. Alors Louis, on a tout dit dans le sommaire, et puis évidemment Paul vient de le rappeler. Alors j'ai envie de te lancer déjà sur Red Bull, beaucoup moins dominatrice, quand on voit le pauvre Perez qui s'élance très très loin sur la grille, et puis qui après se prend les pieds dans le tapis, hein, une nouvelle fois. Et puis il a fallu effectivement des rebondissements multiples et surtout des bonnes décisions d'équipe. Dans ce cas-là, le pilote n'a pas forcément toute la vision nécessaire.
Ouais, non, bah Red Bull, il leur arrive finalement ce que nous on souhaitait un peu de manière objective pour relancer le championnat. Donc c'est super, mais ce qui est assez dingue, c'est la dégringolade de Perez. Il fait pas cinquième, tu vois, il fait pas huitième, il fait 2x16. Deux fois 16, c'est assez incroyable. En plus, il y a des similitudes avec l'année dernière où ça arrive après Miami, comme s'il y avait une espèce de malédiction avec ce Grand Prix. Tout ce qui est après Miami, il n'y arrive pas. Je pense que d'avoir re-signé son contrat, ça le met peut-être dans un confort. Mais bon, quand il ne l'avait pas signé, il était déjà mauvais un peu. Donc bon, je me demande si ça n'arrange pas Red Bull au fond d'être une stratégie à un pilote, tout pour Max. Qu'est-ce qu'on disait hier ? Hier, j'entendais le diffuseur dire que c'était 15 millions de différence entre premier et deuxième en argent à la fin. Lui, bien les sûr, 10-15 ouais. millions, c'est ce qu'il ramène. Donc, ils se disent, bon, bah, finalement, ça peut faire une opération zéro et au moins, on est tranquille avec Max. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Luc, mais à se demander ouais. si ce n'est pas ça derrière. Parce que comme à chaque fois qu'ils lui ont mis un jeune loup, ça a été problématique. Il a presque tué le jeune loup. Il aura fallu 2 ans pour relancer Albon et Gasly. Enfin bref. Donc peut-être que finalement, c'est une stratégie. On a trouvé un gars qui a fini par accepter d'être wingman. Et parfois, on sait qu'il fera 16e, 14e et des trucs un peu nuls. Mais nous, ça nous va parce qu'on a l'alien de l'autre côté qui nous gagnera chaque point qui est possible de gagner, quoi.
Ouais, je suis moyennement d'accord, hein, si tu me demandes mon opinion.
Bah voilà, non, c'est exactement.
Dire pourquoi.
Dis-moi.
Parce qu'à mon avis, justement, ce classement constructeur, c'est presque le plus important pour une écurie. Mm-hmm. Tu l'as dit d'abord à cause du fric qui va avec, hein, puisqu'en Formule 1, c'est toujours une affaire d'argent, bien évidemment. Et puis quand tu compte, et là malheureusement, sur un seul pilote. Alors quand même, j'ai pas redonné, mais je le fais maintenant, le classement au championnat.
Il est cinquième.
Pilote d'abord, voilà. Bon, Verstappen, évidemment, il fait plus qu'assuré, hein, 194 points. Leclerc n'a pas bougé, il reste à 138. Norris fait une belle opération, il revient à 131, donc à 7 points de Leclerc. Sainz, bah, lui aussi, il rend sa feuille blanche 108 points. Pérez, ben on vient d'en parler, 107 points, donc il y a toujours un petit point d'écart entre les deux. Il est quand même seulement cinquième du championnat. Et puis ensuite, on trouve Piastri, évidemment, avec l'autre McLaren. Et puis les Mercedes qui se redorent un peu, Russell 69 points et Hamilton 55. Alors, ce que je voulais te dire, c'est qu'au championnat, ben évidemment, Red Bull reste devant avec 301 points. Mais derrière, la Scuderia Ferrari qui a piétiné est à 252. Et puis McLaren est à 212. Donc tu vois, on a, j'ose dire, un petit regroupement dans les trois premiers, et puis il va pas falloir que ça dure trop longtemps, hein. Il va falloir que Pérez il vienne vraiment chercher des gros points pour les piquer déjà aux équipes adverses. Donc je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais je pense que sur ce sujet là bon, ils ont pris Pérez parce que finalement, je vais pas dire que c'est le moins mauvais choix, c'est quand même très méchant et c'est pas ce que je pense au fond de moi, mais quand il est dans de bonnes dispositions, comme on dit pudiquement, bah il assure. Il a terminé deuxième du championnat l'an dernier, hein.
Ouais,
là, alors, il n'est pas dans de bonnes dispositions.
Voilà. Oui, alors c'est vrai que quand même, Sergio Pérez avait quand même bien débuté son championnat, Jean-Luc. Hein, trois deuxième places, une troisième place. Et puis c'est vrai que le néant depuis maintenant quelques Grands Prix, c'est assez surprenant et c'est même peut-être même incompréhensible parce qu'on sait que c'est un pilote qui a quand même gagné 5 courses dans sa carrière, qui n'a pas challengé évidemment Max Verstappen, car Max Verstappen est tout simplement trop fort. Mais c'est vrai que là, il est eh bien, dans le creux de la vague. Hein, et on aimerait bien le voir un petit peu revenir aux avant-postes. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que les meilleurs pilotes du plateau sont aujourd'hui Max Verstappen et peut-être encore Lewis Hamilton. Mais on voit que Lando Norris et Charles Leclerc ne sont vraiment pas loin lorsqu'ils disposent de bonnes monoplaces, qui est le cas cette année et pour McLaren et pour Ferrari. Pérez a quand même une Red Bull, peut-être l'une des meilleures Formule 1 du plateau, même si elle n'est plus aussi dominatrice que la saison dernière. Il faudra voir, peut-être en Espagne ou en Autriche, c'est un circuit que Sergio Pérez apprécie tout particulièrement, voir s'il arrive à redorer un petit peu son blason. Mais c'est vrai que là, beaucoup, beaucoup d'interrogations à l'heure où vous le précisiez, messieurs. C'est vrai qu'il vient de se réengager pour 2 saisons avec Red Bull.
Alors justement, Horner, Louis, a précisé, pour abonder dans ton sens, hein, c'est bien un contrat d'un an plus un an, avec des clauses de performance que l'on ignore, évidemment, Louis.
Oui, bah, je pense quand même, par rapport, ils ne sont pas complètement fous non plus. Ils prennent, comme tu l'as dit, la moins mauvaise décision. Et du coup, on va y aller année par année au niveau du contrat pour se permettre de pouvoir finalement le casser quand tu veux, puisque une année de contrat, Red Bull, je pense, a les reins, si vraiment il devient nul sur la longueur, pour casser le contrat même un peu avant la fin. Et moi, je pense que ce que je te disais, Max Verstappen est tellement fort que y a-t-il un bon choix pour mettre dans le baquet à côté, quoi. C'est ça à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il a écrasé tout le monde. Donc tu te dis, bon, bah, finalement, on va mettre quelqu'un dont on n'attend pas grand-chose.
Ouais, mais Louis, ce qu'on demande aujourd'hui, et ce qu'on a demandé d'ailleurs à Sergio Pérez, qui avait été quand même, qui a été vice-champion du monde la saison dernière, qui avait fini troisième du championnat, on lui demande tout simplement d'être derrière Max Verstappen. Alors c'est vrai que là, les résultats, encore une fois, sont un petit peu en dents de scie depuis maintenant de Grand Prix, mais je rappelais évidemment ses performances du début de saison, où il termine deuxième à Bahreïn, il termine également deuxième en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah, troisième au Japon, quatrième en Chine, ce qui veut dire que sur la performance, il est capable évidemment d'assurer dans son rôle de second pilote. Et ce qu'on demande à Sergio Pérez, il l'a bien fait depuis le début de la saison. C'est un petit peu plus dur, peut-être que le crash à Monaco quand même a marqué un petit peu le pilote, hein. Mais c'est vrai qu'on demande tout simplement à Pérez d'être le lieutenant du triple champion du monde. Et moi, j'estime quand même que sur les deux ou trois dernières saisons, le rôle est quand même bien rempli par Sergio Pérez.
Ouais, si tu prends un peu de recul, c'est vrai que globalement, tu te dis le taf est fait, mais avec des hauts et des bas. En fait, c'est pas linéaire, quoi. Il est pas toujours entre 2 et 4 derrière Max Verstappen à 4 dixièmes maximum. Il y a des périodes comme ça. On sait pas trop ce qui se passe. C'est des trous d'air, quoi. C'est aussi ce qui différencie les champions des grands champions.
Ouais, bien sûr. Voilà. Je vais faire de l'humour, évidemment, et vous pouvez me tomber dessus. Je vais faire de l'humour à la Marco en disant des fois il y a le sombrero qui descend un peu bas, donc il manque un peu de vision. Bah, ouais. C'était de l'humour, c'est vraiment gratuit.
Non,
allez, on va passer à Mercedes si vous voulez bien, parce qu'on a bien cru quand même avec la deuxième pole de Russell, hein, qui était évidemment fou de joie. Alors, le même temps, justement, le même chrono, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, Paul, ça c'est étonnant. Moi j'ai vécu la première fois où c'est arrivé, hein, dans l'histoire de la Formule 1, c'était à Jerez de la Frontera pour la dernière épreuve du championnat 97. Il y avait un bras de fer absolument infernal entre Jacques Villeneuve et sa Williams et la Ferrari de Michael Schumacher. Et alors, miraculeusement, alors là, je mets vraiment des guillemets, hein, si vous voyez ce que je veux dire, même temps pour les deux pilotes et pour faire bonne mesure, même temps pour Frentzen. Ouais. Alors, il y a des mathématiciens à l'époque qui s'étaient amusés à calculer les probabilités. C'est une chance sur 3000 milliards. Voilà, là, on en a deux qui ont fait le même temps. Alors, je pense que cette fois, c'était exact. En tout cas, c'est extrêmement étonnant, Paul, d'avoir comme ça deux pilotes avec le même temps. Alors, c'est pareil, je crois, c'était 7 minutes d'écart exactement, hein, au bénéfice de Russell qu'il a réalisé avant Verstappen.
Oui, et c'était une surprise, hein, Jean-Luc, car on ne s'attendait pas à voir les Mercedes quand même si performantes. Et Russell, mais également Lewis Hamilton, hein, qui était en tête à un moment de la séance de qualification, une Q3 qui a été complètement folle. Et c'est vrai que Russell a quand même bien démarré, hein, sur une piste évidemment détrempée. Lui qui avait pris le meilleur départ, on avait vu quand même Max Verstappen venir quasiment au niveau de la hauteur de la Mercedes, finalement rester sagement derrière. Et puis pendant qu'il pleuvait, c'est vrai que Max Verstappen est resté entre 1 seconde 5 et 2 secondes 2, hein, derrière le pilote britannique. Et puis quand les conditions se sont mises à sécher, on a vu que le triple champion du monde revenait quand même, hein, assez facilement sur la Mercedes. Et on peut se poser donc la question sur la véritable performance de la Mercedes. On sait que Russell est un pilote très rapide, mais sur du sec, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais sur du sec quand même, la Mercedes a quand même un petit peu plus de mal, même si encore une fois Lewis Hamilton l'avait dit, hein, en conférence de presse, on a retrouvé quand même de la perfo, ce qui veut dire qu'elle est aujourd'hui peut-être pas au niveau des meilleurs, elle s'en rapproche, mais sur une piste sèche, je pense que quand même la Mercedes et de Russell et d'Hamilton a quand même été un petit peu plus dans la difficulté que l'ont pu être les McLaren de Norris ou encore évidemment les Ferrari, mais dans un tout autre contexte.
Ben, il semblerait que ce soit le cas. Oui, Louis, ton avis avec la belle performance d'ensemble, hein, parce qu'Hamilton n'était pas loin. Par parenthèse, tu vas nous parler aussi de ce petit bras de fer, ce petit échange entre Hamilton et Russell sur la fin. On va dire viril, mais correct, ça te va ?
Oui, bah, on attend pas moins aussi. Je pense que ce sont deux pilotes qui subissent des saisons compliquées avec une voiture compliquée. Donc quand ça marche un peu mieux, je pense qu'ils sont les premiers à être hyper excités derrière leur volant. Et puis il y en a un qui part. Donc il y a tout pour se battre un peu en piste. Ça fait plaisir de les revoir là. C'est vrai que Russell, ça a été surprenant de voir finalement que personne le dépasse, puisqu'il le fait assez tôt dans la Q3, son temps. Et c'est vrai que je l'ai vu là-haut, un peu comme on voit parfois en début de Q3 quelqu'un. Et je me suis dit, bon, je pense quand même qu'il fera peut-être 3, mais la pole quand même pas, quoi. Donc ça a été surprenant de le voir là. Et en course, ça tient mieux. Après, Paul a raison, hein. Dès que ça sèche complètement, c'est plus tout à fait pareil. Il y a un step de fait, mais il y a encore il y a encore de l'écart et ils sont même toujours, pour moi, derrière leur écurie cliente, McLaren. Quoi. Donc c'est mieux, mais c'est loin d'être la panacée chez McLaren. Et je pense de toute façon qu'ils pourront s'améliorer de manière significative. Ça restera compliqué jusqu'à 2026. Hein.
Ouais, ouais. Alors, je revenais juste sur le temps. Là, on parlait de ces fameux 1 minute 12 secondes, tout pile, hein, vraiment tout rond pour les deux pilotes. On a été plus vite en Q2, il faut le savoir. Alors, c'était en fonction naturellement de l'état de la piste, hein, mais on a été beaucoup plus vite. Je vois notamment pour Norris, hein, 1:12.201, c'est quand même pas rien, c'est quand même 8 dixièmes de moins. Ça veut dire, Paul, qu'effectivement, il fallait composer avec une. Oui, tu as raison. Donc, on était à quelques distances. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les perfs ont beaucoup varié avec l'adhérence de la piste et en fonction de ce qu'elle pouvait donner, en fonction des pneumatiques aussi qu'on a pu adopter. Mais effectivement, il fallait savoir réagir et peut-être modifier également un tout petit peu les réglages et les appuis, Paul, pour arriver à exploiter sur un tour déjà la performance que dans la monoplace était capable.
Ouais, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs pas mal de pilotes. Hein. C'est vrai que c'était une séance de qualification qu'on très ramassée, cette Q3, hein, car Jean-Luc, tu parlais, et Louis aussi, des performances en haut de la grille, mais on voit qu'un Daniel Ricciardo, quand même, signe un 1:12.178, il n'est pas si loin quand même, hein, de la première ligne. Les Aston qui étaient aussi dans le coup, hein, Hamilton, Jean-Luc en parlait, était dans le coup. Ouais, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et je le disais en préambule, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a de la bagarre en course, mais il y a aussi de la bagarre en qualification. Hein. Rappelez-vous, messieurs, il n'y a pas si longtemps, Verstappen dominait toujours de la tête et des épaules. Là, c'est vrai que ça a été un petit peu moins bien pour le Néerlandais, notamment à Monaco, mais qui est un circuit en ville, donc avec ses particularités. Et c'est vrai que là, on a vu quand même pas mal de pilotes à la bagarre et on espère, Jean-Luc, que sur le tracé de Barcelone dans 15 jours, oui, il y aura également de la bagarre, hein, parce qu'en général, on en reparlera peut-être, mais ce sont des Grands Prix assez soporifiques, hein, à Barcelone.
Oui, Barcelone, souvent, c'est la sieste.
Mais là, c'est vrai que c'est peut-être la course, en tout cas, qui va relancer un petit peu, non pas l'intérêt du championnat, parce que c'est vrai que Leclerc qui n'a pas marqué de points, Verstappen qui s'envole, toujours très régulier, mais en tout cas, ça a relancé le suspense et cette bagarre que évidemment on attend tous lorsque on se branche sur AMC et qu'on écoute Jean-Luc pour ces magnifiques dimanches de Grand Prix.
Et je vais repréciser ma pensée, Louis, tu as raison de le souligner, Russell avait bien signé 1:11.742.
Hein, ouais, d'accord. Ouais,
donc
ouais.
Voilà, là ça, ça plus explique mieux ce que je dis. Voilà. Et en revanche, du côté de Norris, c'est ça qui est rigolo, il avait fait 1:12.201 effectivement en Q2 et 1:12.021 en Q3, tu vois. Ouais. Donc on avait quand même 3 pilotes en 21 millièmes, ce qui est quand même sympa. Bon, on a bien parlé de Mercedes, mais il en fallait d'autres. Hein. Il fallait les McLaren. Alors, je voulais juste rappeler qu'il y avait 56 ans au Grand Prix de Belgique que Bruce McLaren avait remporté la première victoire de cette équipe mythique. Hein. C'était quand même un souvenir étonnant. Et c'est vrai qu'on n'est pas passé loin. Alors, McLaren est toujours là, puisqu'on a vu qu'évidemment, en qualif, la deuxième ligne, c'était Norris et Piastri. Par parenthèse, on rend une nouvelle fois hommage à Piastri, hein, ce tout jeune pilote qui se débrouille vraiment très très bien, mais en course, alors Norris était moyennement déçu, moyennement content comme on veut, juste au pied du podium, Paul, et puis ensuite il était vert parce qu'il dit on aurait dû gagner.
Oui, alors il n'a pas, je pense, le pilote britannique la mémoire courte, hein, pour sa première victoire, hein, en Formule 1, c'était à Miami, il avait, on s'en souvient tous évidemment, bénéficié du safety car, hein, parce que sans ça, je pense que vraisemblablement Max Verstappen se serait imposé aux États-Unis. Et là, c'est vrai que le safety car est sorti alors que Lando Norris venait de passer la ligne de départ. Donc effectivement, l'undercut facilement pour tous les autres pilotes. Et ça a porté préjudice évidemment à Lando Norris qui aurait peut-être donc dû gagner. Les conditions de course ont fait que finalement, il se classe au final deuxième de cette course remportée par Verstappen. C'est vrai qu'au vu de la performance de la McLaren, on n'a pas de doute. Il aurait peut-être été le chercher, mais encore une fois, hein, le safety car cette fois-ci a été à l'avantage du Néerlandais face à Norris qui quand même confirme Grand Prix après Grand Prix qu'il est aujourd'hui vraiment un magnifique challenger. Et Jean-Luc, je pense que tu as raison de le préciser, Piastri est quand même dans les échappements de Norris. Hein,
toujours.
Et qui est encore un jeune pilote, ce qui veut dire que la doublette McLaren est aujourd'hui peut-être l'une des plus performantes du plateau, ouais, peut-être à égalité avec Leclerc et Sainz, quand la Ferrari évidemment marche, mais c'est vrai qu'on peut comprendre ce goût d'amertume dans les mots à l'arrivée de Lando Norris, qui avait peut-être au bout de ce Grand Prix une deuxième victoire après celle de Miami, mais les faits de course ont fait que finalement c'est Verstappen qui s'est imposé.
Ouais, et puis Louis, juste pour illustrer plus clairement les propos de Paul et le fameux undercut, effectivement, Russell et Verstappen ont pu rentrer au 46e tour pour monter des pneumatiques slick, hein, là où la piste commençait à sécher, alors que Lando, ça a été au 47e tour. J'ai lu quelque part, Andrea Stella, Louis, disait qu'il avait une seconde et demie pour réagir seulement, avant de passer devant l'entrée des stands.
Ah ouais. Bah, faut c'est réagir beaucoup, vite. Hein. mais de toute façon, à la Isaac Hadjar, tu vois, genre tac, tac, hop, tu vois. Mais non, ouais. De toute façon, ouais, c'est un peu une Aston Martin qui lui a fait perdre le Grand Prix, mais ni celle d'Alonso, ni celle de Stroll, mais de Monsieur Mailander, parce que c'est vrai que tu vois le truc se passer. Moi, je regardais le radar parce que je voyais bien ce qui allait se passer. Je voyais Norris se rapprocher. Je dis, là, faut prendre une décision, parce que dans 10 secondes, tu peux plus envoyer la safety, sinon tu désavantages clairement un pilote, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et comme tu dis, une seconde et demie, ça se joue à rien. Ben, je veux dire, les débris, les gros, les 2-3 gros débris qui nécessitent la safety car, on les voit en 5-8 secondes. Enfin, il n'y a pas non plus besoin d'attendre 6 virages ou plus même pour prendre la décision. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Bon, après, comme l'a dit Paul, c'est un prêté pour un rendu au niveau des petites safety cars qui avantagent l'un puis l'autre. Comme on le dit un peu au foot, comme aime bien le dire Daniel Riolo sur notre antenne, à la fin de la saison, ça s'équilibre, parce qu'il n'y a pas une volonté de la part de la direction d'avantager qui que ce soit. C'est qu'il y a un moment, ils se disent, bon, on l'a fait un peu tard, mais là il faut mettre la voiture de sécurité. J'avais bien aimé la phrase hier des commentateurs. Au moment où il dit là, on n'a vraiment pas envie d'une voiture de sécurité. Il dit bah oui, mais c'est pas une histoire d'envie, c'est une histoire de sécurité. C'est bête à dire, mais c'est évident. Et bon, bah voilà, tant pis pour Lando. Mais comme l'a dit Paul, c'est clairement aujourd'hui, je pense, le package voiture duo de pilotes le plus solide, parce que à la différence de Ferrari, eux vraiment sur ces dernières semaines, ils sont là partout. Quand Ferrari a un peu disparu ce week-end, alors peut-être que c'est juste un week-end. Mais on va dire que Ferrari est un peu plus en grand 8 quand vraiment, je trouve, vraiment c'est solide. Puis tu le disais, Paul, quoi, c'est dans les pots d'échappement, Oscar, et quand c'est pas devant, quoi. Enfin, il est vraiment, vraiment très solide, ce pilote. On l'imaginait, maintenant on le voit, en fait. C'est-à-dire que lui aussi fait partie de cette trempe de gosses qui... de gosses, le gars parle comme un vieux.
Oui, oui.
J'ai 31 ans demain, ça y est, je vais bientôt
bon anniversaire,
à la retraite.
Un petit peu,
t'es un vieillard chenu, faut s'y faire, c'est comme ça.
Mais moi je suis quand même impressionné de me dire quand parfois tu peux encore être stressé quand tu fais un vulgaire entretien de boulot ou quoi. Ces mecs-là, ils ont 20 piges et ils ont une pression sur leurs épaules et une tête froide et aussi Oscar, même quand la dernière fois il fait un podium dans la radio, il est d'un calme presque, c'est trop, tellement il a pas de réaction. Et là, ouais, c'est bien, on a bien fait le boulot, les gars, bien joué. Tu vas mettre bien fou, tu vois, comme Pierre, comme Charles, enfin, tu vois, il y en a aussi qui ça. Lui, c'est serpent,
sa nature,
quoi.
Hein,
Moi, c'est vrai qu'il me suit pas du tout comme ça, ça m'impressionne d'autant plus, quoi.
Ouais, moi c'est clairement, messieurs, mon coup de cœur depuis le début de la saison. Et quand je parlais de pot d'échappement, j'ai cette image évidemment en principauté à Monaco, hein, lorsqu'il est resté pendant une trentaine de tours vraiment collé à Charles Leclerc, ce qui veut dire que aujourd'hui il a déjà les épaules pour être performant face à Norris, quand même, qui est l'un des peut-être des trois meilleurs pilotes. Il est aujourd'hui au contact, alors même si c'est vrai qu'au championnat il n'est que sixième, mais il est en train de prouver, un quatrième en Italie, deuxième à Monaco. Il termine aussi là bien placé sur ce Grand Prix au Canada. Donc c'est une étoile à suivre qui pourrait pourquoi pas performer, qui a déjà remporté une course sprint, mais qui, à n'en pas douter, d'ici quelques semaines sera comme Lando Norris, en tout cas en Lucette, le même parcours, peut-être auréolé d'une victoire en Grand Prix. C'est tout le mal que l'on souhaite à ce jeune et talentueux pilote.
Ça va arriver, hein, ouais. Effectivement. 81 points, on le rappelle, pour Piastri, tu l'évoquais, Paul, alors qu'effectivement, du côté de Norris, c'est 131. Et puis on rappelle qu'il y a eu quand même des deuxièmes places, il y en a eu 3 si je ne m'abuse, et puis il y a eu la victoire. Alors au niveau du classement constructeur, parce qu'on l'a évoqué rapidement, ce qui est important de rappeler, c'est que lors de ce Grand Prix, McLaren marque 28 points,
exactement le même total que celui de Mercedes, alors que Red Bull n'en prend que 25, évidemment, grâce à Verstappen, et Ferrari prend 0. Et puis, lors du Grand Prix précédent, eh bien, je l'avais signalé aussi, je me souviens, ils prennent 30 points, là où la Scuderia en prend 40. Et le Grand Prix précédent en Italie, c'est là que McLaren avait pris plus de points que tout le monde. 30 points, alors que Red Bull seulement 29 et la Scuderia Ferrari seulement 25. Donc, il y a un beau tir d'ensemble et puis ça fait plaisir, quoi. C'est deux types très sympas, très talentueux, c'est absolument magnifique. Allez, je vous propose de quitter le papaya, comme on dit, pour aller du côté du beau vert, du British Racing Green, celui d'Aston Martin. Alors là aussi, il y a beaucoup à dire ou il n'y a pas beaucoup, parce qu'on sent bien que Fernando Alonso, toujours le même talent, toujours la même envie, il fait sixième des qualifs, c'est plutôt pas mal. Stroll, devant son public, fait neuvième. Comme je dis, je le défends parce que tout le monde lui tape sur le casque en général. Il n'est pas trop mal. Et puis, et c'est un beau tir groupé, hein. On termine 6 et 7. Alors, je sais pas, ton avis, Paul, là, sur les Aston. Un peu en dedans, hein, quand même, ils sont loin des trois premiers, on perd.
Un peu en dedans, mais ils sont aujourd'hui à leur place. Hein, là, on va dire que c'est aujourd'hui la cinquième force du plateau. On parle évidemment des Red Bull, des McLaren, des Ferrari, des Mercedes. Et derrière, évidemment, avec ce talentueux Fernando Alonso, hein, toujours capable d'aller chercher des gros points, toujours capable de se battre en Q3 pour s'élancer le plus haut possible sur une grille de départ. Mais c'est vrai qu'ils sont à leur place. Hein, je crois qu'il est à l'arrivée à une... moins d'une vingtaine de secondes, je crois.
17 secondes et demie.
Ça. De
on
Max
rappelle
Verstappen.
Qu'il y a eu le safety car quand même. Hein,
il y a eu le safety car, évidemment. Je pense qu'elles sont, sans en faire des caisses, passez-moi l'expression, mais elles sont aujourd'hui à leur place, hein, avec, encore une fois, Alonso qui est toujours très très bon, mais on le sait, hein, il serait peut-être dans une Red Bull, il gagnerait encore une fois pas mal de Grands Prix. Et Lance Stroll, évidemment, lui, il limite la casse de temps en temps. À domicile, il termine là aussi à 7 ou 8 secondes de son coéquipier. Pas grand chose à dire de plus à mes yeux, hein, sur les performances des Aston qui sont là, qui font leur Grand Prix. Si c'est 7, hein, je sais pas ce que tu en penses, ne vois pas aujourd'hui les Aston être capables d'aller bien plus haut dans la hiérarchie.
Non, moi c'est clairement en plus en ce moment un peu l'écurie que je suis de très loin, c'est-à-dire que elle a eu vraiment de l'intérêt l'année dernière où tu te disais ouais, ils font un truc de fou là, ils reviennent, ils sont solides, et puis très très doucement, de manière progressive, décrescendo, ils sont venus dans un midfield et aujourd'hui ils font plus grand chose, et donc du coup on n'en attend pas grand chose, et moi juste je remarque que Stroll, dès que c'est un peu mouillé, il est bon, quoi. C'est quand même marrant, ça. Il a souvent fait des choses assez incroyables dans des conditions dantesques. Alors, et à l'inverse, des choses incroyables, mais de manière négative, sur des conditions parfaitement sèches, où il était capable d'aller...
Crame infusible.
C'est ça. Donc, il est assez surprenant, ce pilote. Moi, je suis un peu comme Jean-Luc, je taperai jamais sur le pilote en tant que tel, parce que certes, on sait pourquoi il est là. Peut-être qu'il a une longévité grâce à son père, grâce à tout ça. Mais je pense que des pilotes payants bien plus mauvais que Stroll, il y en a eu légion. Et il y en a même un autre en grille.
Oui, on va pas les citer, mais il y en a d'autres.
Voilà, exactement. Donc, je pense que il a un combo bon pilote plus bon papa qui fait qu'il a une très longue carrière, et peut-être qu'à son niveau, il aurait pu en avoir une plus courte. Mais c'est pas du tout le nulos que des gens veulent nous faire croire. Pas du tout.
Et puis tu sais, il faut écouter Fernando Alonso, hein, qui n'a pas la langue dans sa poche. Bien sûr qu'il est employé de McLaren et qu'il va rester, mais il a dit, quand moi je serai parti, il a quand même 42 ans, le père Alonso, bientôt 43, il a dit je pense que Lens aura les épaules pour tenir l'écurie. Donc effectivement, il est là pour un moment, pour conforter ce que tu dis, et on sait bien pourquoi. Et puis on rappelle le score pour le moment, moyenasse, hein, comme dirait Vincent, 58 points pour Aston Martin. On est loin des 124 de Mercedes, mais évidemment, on est quand même 30 points devant RB. Alors ça me fait la transition, tiens, parce que si je vous écoute là, on va pas avancer du côté de RB. Alors parlez-moi, tiens, Paul, parle-moi de Ricciardo. Après tout ce qu'il a pris dans la tête, lui aussi, ça venait de partout. C'est des bons points, ça.
Comme dirait alors Vincent aussi, il relève le gant quand même, là, actuellement, le pilote australien. Non, mais qui avait été, nous aussi, dans le paddock F1 sur AMC, on a quand même largement critiqué l'Australien depuis le début de la saison.
Il y avait de quoi.
Non, mais bien sûr, mais autant lorsqu'il y a de quoi, on peut critiquer, et bien lorsque la performance est au rendez-vous, quand même, on peut aussi tirer un coup de chapeau à ce pilote australien qui a quand même été très très bon, qui a gagné des grands prix, qui, à l'époque de Red Bull quand même était quand même l'un des meilleurs pilotes du plateau. Il n'a pas perdu son coup de volant quand même du jour au lendemain.
Non, c'est vrai.
Qu'aujourd'hui, dans une monoplace quand même qui reste, la Racing Bull, c'est aujourd'hui quand même, ce n'est pas la meilleure des monoplaces. Il arrive à performer en qualif, la confirmation en course. On a envie, enfin je sais pas ce que t'en penses Louis, mais on a envie de se dire qu'il est encore là pour peut-être pas mal de temps et que la saison sera encore longue et que si on amène peut-être quelques modifications à cette Racing Bull, pourquoi pas voir Ricardo régulièrement, alors peut-être pas les jouer évidemment un podium, mais régulièrement dans les points, régulièrement dans le top 5, 6, 7, peut-être derrière les Aston. En tout cas, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup et qui fait plaisir à voir. Et je pense que le plateau de la Formule 1 est aujourd'hui content de voir que Ricardo est de nouveau capable de performer.
Ouais, je pense que c'est un mec vraiment... moi, je suis comme toi et je pense qu'on est beaucoup. C'est quand même le gars, t'as envie qu'il réussisse, il est sympa.
Même, hein.
Et surtout, c'est 8 victoires, c'est pas non plus énorme, même si c'est déjà un très beau chiffre. Hein, au moment de Red Bull, moi, ce qui à chaque fois, c'est la qualité des victoires. Enfin, je me souviens de dépassements, de freinages, de choses. Il n'est pas parti en pole et a fini 6 secondes devant grâce à la voiture quand il a gagné. Quoi. C'est 8 victoires qu'il est allé chercher. Renault, il a été solide, mais et puis après, on n'en parle même pas. Après, ça a été quand même assez compliqué et ça a été long. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis certes, cinquième, c'est bien, mais quand je l'entends derrière que Jacques Villeneuve, il se frappe trop la tête contre les murs, il a mangé du caca, enfin bref, toutes ces choses-là. Je me dis, Daniel, quand même, très beau week-end, bravo.
Il s'est laissé aller.
Mais les critiques de...
Et il est quand même champion du monde, Jacques, aussi.
Voilà, les critiques de Jacques, elles sont à la Jacques Villeneuve, donc voilà.
Elles sont dures, mais justifiées.
Elles sont fondées quand même, parce que c'est long. Il y a eu beaucoup de pilotes qui sont passés à côté de lui. Il n'a pas vraiment dominé l'un d'entre eux. Il a, dès que ça n'allait pas, c'était le châssis. Je suis super content si ça annonce une fin de saison sympa où il est devant Tsunoda ou au moins au niveau et qu'il fait des trucs sympas, ok, mais je suis quand même beaucoup plus mesuré que Paul sur le fait que ça soit un potentiel retour. Moi, ça pourrait ne pas m'étonner aussi que ça soit une lueur dans la nuit, quoi, juste, et qu'on retourne dans la nuit très tôt.
Allez, par parenthèse, Tsunoda et RB sont pris $10,000 d'amende parce qu'effectivement, il n'avait pas été présent assez tôt lors de la cérémonie de l'hymne. Enfin bon, ça c'est...
Et s'il était là, mais on ne le voyait pas, il était caché par Russell.
C'est ça, il est petit, en fait.
Allez, petit je voulais garder pour la bonne bouche. Petit par la taille, mais grand par le talent, évidemment. Ouais.
Grand par le talent, bravo. Et puis, il a été reconduit, il faut le rappeler aussi dans son contrat avec RB.
Il attendait Red Bull, lui, il doit être déçu aujourd'hui.
Bah, c'est clair. Je vous ai gardé pour la bonne bouche, évidemment, Ferrari, le Cavallino Rampante, si dominateur dans les rues de Monaco, et avec cette belle victoire de Charles Leclerc, évidemment, chez lui, et puis absolument nulle part à Montréal, sur une piste glissante. Rendez-vous compte, Leclerc seulement 11e et Carlos Sainz 12e sur la grille. Tiens, tout de suite, on va écouter Frédéric Vasseur, micro de Canal, expliquer les différents problèmes de la Scuderia Ferrari là-bas à Montréal.
Les raisons, elles sont multiples sur Charles. Déjà, on a perdu contrôle moteur et on perdait 80 kW là, pendant 10 tours. On est obligé de s'arrêter 30 secondes, d'arrêter le moteur, de le relancer. Bon, donc la course était perdue. Et Carlos, il a un contact à un moment donné, il fait l'aile avant, le fond plat et puis il finit par sortir. Donc oui, ça fait beaucoup pour un seul week-end. À la limite, il vaut mieux peut-être mettre tout sur le même week-end puis avoir des week-ends un peu plus clean après. Oui, c'est un peu dur. Là. On est un peu choqué. Il faut qu'on se réveille pour la prochaine. Je pense que côté positif, c'est que le rythme de Charles, malgré la pénalité moteur, était plutôt bon. Il était dans le peloton, il tenait bien le peloton avec 80 kW de moins. Donc je pense que ça, c'est plutôt bien pour la performance. Mais marquer 0 points sur un week-end comme ça, c'est un peu dur.
J'aime toujours beaucoup l'humour de Fred Vasseur. Lui, il mâche pas ses mots et puis il y va carrément. Bon, on va se ressaisir, hein, évidemment, Paul. Notamment pour Barcelone, du côté de la Scuderia. Il vaut mieux d'ailleurs.
Ouais, mais c'est vrai qu'elles étaient quand même nulle part. Hein. Les Ferrari ce week-end, elles sortaient quand même d'une victoire à Monaco avec la superbe qualification de Charles Leclerc. Et c'est vrai que là, déjà problème en qualif. Alors évidemment, Fred Vasseur évoquait le problème moteur de Charles, mais pendant la course, vraiment, on n'avait pas la sensation que Ferrari était peut-être la deuxième ou la troisième force du plateau. Alors évidemment, des pépins pour Charles Leclerc. Sainz qui n'est pas au rendez-vous dans des conditions, on le rappelle quand même, qui étaient vraiment extrêmement difficiles hein, hier sur ce circuit Gilles Villeneuve. On peut espérer évidemment un sursaut à Barcelone, mais il ne faudrait pas quand même, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui chez Ferrari, que les performances ne soient pas égales d'un week-end à l'autre hein, quand même. Alors Monaco, Jean-Luc et Louis, ça reste vraiment un circuit très particulier, ouais, mais là quand même au Canada, on pouvait quand même s'attendre à voir au moins les Ferrari rentrer en Q3, ce qu'elles n'ont pas été capables de faire. Et évidemment, quand vous partez eh bien, dans des conditions précaires en 11 et 12e position, eh bien, oui, vous êtes confronté eh bien, à une meute de pilotes qui ont faim. Et même si, encore une fois, Charles a eu des problèmes de moteur, je pense que vraiment, c'est un week-end à oublier pour Ferrari. On va leur redonner une chance, en tout cas, et les voir performer là aussi sur le circuit de Barcelone dans 15 jours. En tout cas, c'est tout le mal que l'on souhaite à Fred Vasseur et à Charles Leclerc, évidemment, et à Carlos Sainz.
Et puis Louis, deux abandons hein, pour Ferrari consécutivement. Au 43e tour pour Charles Leclerc, suite aux problèmes techniques que Paul évoquait. Et puis Carlos Sainz, lui, bah, est pareil, il s'est pris également les pieds dans le même tapis que Tsunoda. Il est sorti, il a entraîné malheureusement Albon avec lui.
Oui, Albon bien comme il faut. Ouais. Donc les Ferrari, je pense que ça peut-être le premier week-end depuis maintenant plusieurs où ils n'ont pas maximisé du tout. Ces derniers temps, j'avais trouvé justement une sérénité, une solidité, on va dire, un peu retrouvée de manière globale. Tu pouvais aller de des essais qui étaient bien menés à la communication, au pit stop, tu sentais ce cercle vertueux mené par Frédéric Vasseur, à qui tu avais l'impression que tout ce qui touchait se transformait en or. Et là, clairement, premier week-end, petit retour à la réalité. Parfois, quand la partition s'enraye, ça ne va plus du tout. Et là, ça a été le cas ce week-end, en fait. Ça n'allait pas jusqu'à ce que, déjà, tu fais 11-12 et tu te retrouves derrière avec ton moteur qui ne veut pas, ton autre pilote qui se plante. Bêtement, c'est peut-être un peu dur, mais c'est...
C'est une belle erreur.
C'est délicat. Mais bon, ça reste des conditions, ça reste des virages à Montréal où quand t'es 2-3 voitures là-dedans avec un peu de piste mouillée, ça peut, comme tu dis, ça peut vite arriver aussi.
Mais donc, on laisse Ferrari compliqué. Si vous voulez bien, parce que le temps tourne. et c'est vrai qu'on a plein de sujets. On a un beau sujet à aborder, c'est Alpine, évidemment. On a Alpine. Alors, vous savez ce qui s'est passé hein, au final, on l'a annoncé, puisqu'effectivement, il termine dans les points avec Pierre Gasly 9e et Esteban Ocon 10e. Seulement, il y a eu une consigne à quelques tours de l'arrivée, parce qu'apparemment, à ce moment-là de la course, avec la monte pneumatique, Gasly était plus rapide qu'Ocon. Et puis, on va écouter, il a reçu un ordre de son ingénieur pour laisser passer son équipier. On va écouter la réaction d'Esteban Ocon au micro du diffuseur.
Malheureusement, on voit la traîne qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. C'est pas correct. Moi, j'ai fait mon job, pas l'équipe, cette course-là. Et c'est triste que ça se finisse comme ça à la fin de la course. À la fin, oui, clairement. Parce que je fais une course où je pars dernier. Moi, je prends tous les risques qu'il faut. Je dois finir 9e, marquer 2 points. Je suis content qu'on marque des points en tant qu'équipe, mais on les aurait marqués tout autant si je ne laissais pas passer Pierre à la fin. Voilà, je ne sais pas de où l'appel vient, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon job, ma partie du job, et ça, c'est le plus important. On discutera du reste en interne, comme d'habitude.
Alors, ça va sûrement chauffer, hein, Paul, les discussions en interne. Il a cité nommément Joss, Piquet et Dave Ocon également à la radio. On a vu les échanges radio. Enfin, comme souvent avec Alpine cette saison, c'est du lourd sur la piste, mais aussi en dehors.
Oui, effectivement, je peux comprendre quand même un petit peu le désarroi d'Esteban Ocon, hein, qui avait été sanctionné donc après sa bourde de Monaco et qui, en partant dernier, quand même réussissait un magnifique Grand Prix. Alors que Gasly finisse 9e et Ocon 10e ou que Ocon finisse 9e et Gasly 10e, après tout, ce sont des points pour l'écurie française. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur, je pense, à encaisser. Alors c'est vrai qu'on ouvre le parapluie, hein, Jean-Luc et Louis, en disant Pierre Gasly avait une monte de pneus pneumatiques plus fraîche pour aller, pourquoi pas, chercher... Daniel Ricciardo, je pense que ce sera quand même, et c'est ça qui est dommageable aujourd'hui, puisqu'on se régale de voir ces Grands Prix avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Je pense que la suite de la saison pour Esteban Ocon sera très, très compliquée hein, chez Alpine. On sait qu'il quittera évidemment l'écurie française à la fin de cette saison, mais au vu de ses déclarations, on peut penser que la hache de guerre est de nouveau bien enterrée.
Elle est enterrée pas très profond. Alors, on va écouter si vous voulez.
Bien enfoncé, je voulais dire, bien enfoncé.
Voilà, j'ai bien compris. Bien enfoncé. Et enfoncé, mais dans le dos de l'autre, ouais, peut-être. Ouais. Alors, on va écouter la réaction de Pierre Gasly, évidemment, sur cette possibilité d'attaquer Ricciardo avant d'écouter la réaction de Louis à ce sujet. Allez, Pierre Gasly au micro du diffuseur.
Le but, c'était d'attaquer Ricciardo. On aurait voulu changer les positions 2 tours plus tôt que ce qu'on a fait à 4 tours de la fin pour essayer de rester un petit peu plus proche de Ricciardo. Au final, on l'a fait. Ça s'est passé un petit peu plus tard, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que pour l'équipe, c'était assez clair qu'avec Léar, j'avais un petit peu plus de chance d'attaquer Daniel. Mais bon, au final, on marque 3 points. Je pense que vu le début de la saison, on peut se satisfaire de cette course. Je pense qu'on a bien travaillé en équipe.
Alors Louis, on va assister à ça après chaque Grand Prix, tu crois, les explications des uns et celles des autres?
Peut-être, c'est une possibilité, comme le disait Paul. Alors moi, je pense que ça peut être une première possibilité, tout ce qu'a dit Paul, c'est-à-dire vraiment compliqué pour Esteban. Ou alors, c'était tout simplement un peu le « on n'a pas pu te suspendre parce que c'était compliqué politiquement, Douane, il n'a pas vraiment roulé, on t'embête un peu, on n'est pas cool avec… avec toi sur ce Grand Prix, et puis ça fait un partout, et on finit la saison. Mais bon, ma théorie numéro 1, c'est quand même celle de Paul, c'est-à-dire que ça va être compliqué et long, dans le sens où Alpine aussi, c'est une structure qui a besoin d'avancer, qui est pas bien, qui est pas dans un... Et enfin, ils ont pas le temps de cajoler un mec qui se barre, quoi. Enfin, je pense que ça peut être un peu compliqué pour Esteban. En plus de ce qu'on comprend, ça, pour aller chez As, moi, ça me fait vraiment pas rêver. Ouais, pour le moment, j'ai un peu de peine.
Il y a encore une option Audi, peut-être. Hein,
mais ouais, j'espère. Ouais.
Allez, on va écouter Bruno Fabin, parce que, comme on est des garçons positifs, évidemment, on va écouter le bon discours du bon team manager qui est bien heureux que ces deux pilotes aient marqué. Allez, on l'écoute à propos de la réaction à chaud d'Esteban Ocon.
Lui, il a une petite réaction à chaud, là, ce qui est normal, je comprends, c'est avec l'adrénaline de la course. Maintenant, ce qu'il faut, c'est positiver le résultat. C'est notre première double entrée dans les points de l'année. On partait plutôt loin sur la grille. L'équipe a super bien géré la course à tous les niveaux, que ce soit la stratégie, les ingés, les mécanos. On a eu un petit problème sur la grille avec la voiture d'Esteban, ils ont réussi à le régler. Les pit stops étaient bien, tout était bien. On a très bien géré le coup et les pilotes ont fait un super boulot, les deux. C'est le résultat d'équipe qui compte. Je suis sûr que les petits écarts vont se... d'adrénaline vont se calmer très rapidement. J'ai pas de soucis là-dessus. Je suis très content du boulot qu'ont fait les pilotes, que tant Esteban que Pierre. On les a mis dans des positions un petit peu compliquées, en passant les premiers, les pneus slick avec Pierre notamment, en ne s'arrêtant pas sous la première safety car avec Esteban. Ils ont super géré, ils ont fait un super boulot et toute l'équipe a fait un super boulot. C'est ça que je retiens aujourd'hui.
Bruno Famin, qui lui en tant que team manager évidemment a pris 3 points, lui l'ordre des pilotes, il s'en fout un peu finalement, mais effectivement je pense que la saison va être longue et puis c'est un peu dommage d'avoir cette état d'esprit. Bah, c'était un plaisir de vous avoir, Paul et Louis, pour ce paddock. On va retrouver
un plaisir
Nico,
partagé, hein, messieurs. Eh oui, évidemment.
Dès la semaine
Nico,
prochaine.
Là, il est à la plage.
Ah, il est à la plage, Nico. Il est sous le parasol, là,
mais
effectivement.
Bien sûr. Il a le rosé au frais. Mais bien sûr.
Et puis, on va retrouver Alex aussi, bien évidemment.
Oui, qu'on embrasse.
Hamza, enfin, toute l'équipe. Bon, bah, merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous êtes régalés comme nous. Comme d'habitude, vous pouvez nous noter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, évidemment. C'est la libre antenne sur RMC Paddock, comme d'hab. À la prochaine. Salut à tous et merci.
Ciao.
Bye bye.
Le Paddock RMC.